réellement au service donc du monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des exemples où, au contraire, elle aurait été un outil tendant à contraindre le monde de l'entreprise, le patronat, à consentir des concessions? Je pense à l'exemple de 1936 où le rôle de l'UIMM aurait été crucial pour certains des accords. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est avéré?
Ah non, c'est pas du tout un mythe. D'abord, mais là, je pense que maintenant, ça se sait. Donc, l'accord Matignon a été demandé.
Alors, l'accord Matignon, pour le...
c'est en 1936, c'est-à-dire seront réunis à l'hôtel Matignon les représentants des ouvriers, les représentants des patrons et les représentants de l'État. Et donc l'accord Matignon a été demandé par le secrétaire général de l'UMM qui s'appelait Lambert Ribot à l'époque, tout simplement parce que il y avait des grèves dans toutes les entreprises, il fallait se sortir de là. Et Lambert Ribot avait été auditeur, je crois que c'est auditeur, au Conseil d'État en même temps que Léon Blum. Donc il se connaissait. Donc il a contacté Léon Blum la veille en lui disant « Il faut absolument que vous organisiez une réunion pour qu'on puisse se mettre autour d'une table et parler. » Et donc, d'une certaine manière, l'accord Matignon a été demandé par lui-même. Et c'est eux qui vont discuter avec les représentants des syndicats ouvriers, de la durée du travail, des hausses de salaire, enfin, voilà.
Voilà. Alors, c'est effectivement un cas où, entre le représentant, le président de l'UIMM de l'époque, Lambert Ribot, et Léon Blum, il y a une connivence. Mais c'est tout à fait exceptionnel, évidemment, dans cette histoire. Et avant tout, c'est les intérêts du patronat, en l'occurrence de la métallurgie, de tous les patronats, de tout le patronat qui prévaut. Et au cours de ces décennies et décennies, 107 ans, lui-même agira comme un lobby qui cherche à faire toutes les pressions possibles, par tous les moyens possibles, pour défendre ses intérêts et évidemment les développer. Daniel Fraboulet.
Encore un petit peu de détails. Alors là, vous nous avez expliqué un petit peu les moyens mis en œuvre par l'UIMM les plus légaux. Est-ce qu'il y a aussi des documents de l'époque permettant de voir qu'on a utilisé d'autres biais comme des caisses noires, chose dont on parle aujourd'hui, comme des financements de partis politiques ou même de syndicats?
Il existait, depuis 1907, une caisse d'assurance contre le chômage forcé.
Qu'est-ce que vous appelez le chômage forcé?
La grève. Ça s'appelait comme ça, la caisse d'assurance contre le chômage forcé. Et ils ont regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Il y avait déjà ces caisses qui, dès 1904, avaient vu le jour aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et ils ont repris cette idée.
L'idée, c'est qu'un entrepreneur perd de l'argent parce qu'il y a une grève dans son entreprise. On va l'aider à compenser pour les pertes grâce à cette caisse de... Voilà.
Comme l'assurance contre l'incendie. Alors, cette caisse contre le chômage forcé va durer jusqu'en 1972. Et en 1972, c'est François Sérac qui est président et qui va simplement la moderniser. Il faut voir que dans les années, la fin des années 60, le début des années 70, il y avait en Europe énormément de grèves. Hein, c'était la crise menaçait, il y avait un certain nombre de difficultés. Ça va devenir l'EPIM, l'entraide pour les industries métallurgiques. Et là, les cotisations vont être plus élevées et elles vont permettre de rembourser non seulement les frais généraux, la perte, mais également les pertes de production.
Donc là, on renforçait de manière significative la capacité du patronat de résister à des grèves.
Tout à fait. Et puis, il va se trouver que, avec la crise qui va s'installer, il y aura de moins en moins de grèves. Et les fonds qui vont être engrangés à ce moment-là à l'EPIM vont être placés. Comme dans n'importe quelle société d'assurance. Si vous voulez, c'est pas véritablement une caisse noire. C'est même pas une caisse noire, c'est une caisse que tout le monde connaissait. Et si vous vous reportez aux journaux de l'époque, en 1972 et autres, les Échos, la Tribune et autres, vous avez des tas d'études sur l'EPIM.
Donc cette EPIM, on la connaissait à l'époque, on en a perdu la trace, parce qu'aujourd'hui on nous a dit qu'on ne sait plus, on ne savait pas que ça existait.
Je ne vais pas polémiquer, mais je dirais que si on demandait aux historiens, ils le sauraient. Les journalistes, quelquefois, oublient.